Mbandaka sur 103.
Une réunion des concertations s'est tenue la semaine dernière en Mbandaka entre les exploitants forestiers opérant dans la province de l'Équateur et les gouvernorats de province. Qu'en était-il exactement? Nous allons en savoir avec Dominique Wolombi qui est en ligne. Dominique, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, JR.
Alors, dites-nous un peu, c'est vrai que la province de l'Équateur est reconnue pour sa richesse en forêt. Et quelles sont ses potentialités en essence d'arbres exploitables?
Oui, la province de l'Équateur détient à elle seule plus de la moitié de la richesse forestière de la République démocratique du Congo et compte plus de 250 essences d'arbres exploitables. 25 essences de ces arbres sont très recherchées sur les marchés internationaux. Avec la décentralisation administrative qui arrive, l'Équateur compte sur les recettes d'exploitation forestière pour développer son milieu. C'est par ce discours que le gouverneur de province, José Makila, a ouvert la réunion de concertation au gouvernorat des provinces exploitants forestiers. Pour José Makila, la coupe du bois à l'Équateur se fait souvent au détriment des populations locales et au mépris du code forestier en vigueur en République démocratique du Congo. On l'écoute.
L'exécutif provincial n'encouragera jamais l'exploitation anarchique de notre forêt, sous peine d'être condamné de l'infraction de haute trahison prévue par l'article 57 de la Constitution. Votre présence parmi nous doit nous aider à mieux maîtriser l'exploitation de notre forêt au profit de ses habitants. Souvent, il est observé, à tort ou à raison, une complicité entre les organisations internationales du secteur et les exploitants forestiers. C'est pourquoi je formule ardemment le vœu de voir ces différentes organisations internationales produire des actions à impact visible à la hauteur des fonds mis à leur disposition.
Alors, Wolombi, en quoi, a consisté la réunion de concertation entre les gouvernorats des provinces et les exploitants forestiers?
Cette réunion de concertation a porté, entre autres, sur l'organisation et le fonctionnement de l'exploitation forestière à l'Équateur. Il s'agissait, en fait, pour l'autorité provinciale, de voir qui exploite la forêt de l'Équateur, qu'est-ce qu'il réalise comme bénéfice de la coupe du bois, quels services les sociétés qui exploitent les bois rendent-elles aux communautés locales des milieux où elles ont installé leurs chantiers? Maintenant que chaque province doit d'abord compter sur ses propres moyens pour se développer avec les retenues à la source des 40% des recettes du trésor public, l'autorité provinciale de l'Équateur veut voir clair dans ces secteurs. Pour l'Équateur, estime le gouverneur Makila, ces 40% ne peuvent avoir un impact réel sur le développement de la province que si les secteurs forestiers y contribuent efficacement. On l'écoute une fois de plus.
L'exécutif provincial n'acceptera plus jamais que les recettes issues de l'exploitation forestière prennent une direction autre que le trésor public à la suite de pseudo-arrangements avec les services techniques et autres, à savoir environnement, l'OCC, l'OFIDA, la DGRAD, l'ANR, la DGM, la Force navale, et j'en passe. S'agissant plus particulièrement des taxes prévues à l'article 122 alinéa 1er du Code forestier, à savoir la redevance de superficie concédée, taxe d'abattage, taxe à l'exportation, taxe de déboisement et taxe doivent être désormais acquittées à la succursale de la Banque centrale du Congo à Mbandaka.
Alors, que demande l'autorité provinciale aux exploitants forestiers qui opèrent à l'Équateur, Dominique?
J.R., l'autorité provinciale demande surtout aux exploitants forestiers non encore en règle vis-à-vis de la province pour les paiements des taxes qui viennent d'être citées de s'exécuter au plus tard le 15 octobre prochain. Après 3 heures d'échanges et de débats entre les deux parties, des mesures ont été prises à l'endroit des exploitants forestiers. Écoutez le ministre provincial de l'Environnement, Norbert Ondoto, qui lit le communiqué final qui a sanctionné cette rencontre.
L'exécutif provincial a l'obligation de veiller à la bonne exécution du code forestier par les deux parties. L'exécutif provincial a l'obligation de garantir aux exploitants forestiers la meilleure jouissance des concessions mises à leur disposition. L'exécutif provincial s'engage à la mise sur pied d'une police spéciale d'environnement. Les taxes de redevance sur la superficie concédée devront être acquittées à la succursale de la Banque centrale du Congo à Mbandaka. Toutes les cargaisons des exploitants non encore en règle seront bloquées en Mbandaka, Lukolela ou Libenge jusqu'à la régularisation définitive de leurs dossiers.
Alors comment les exploitants forestiers ont-ils apprécié la lecture de ce communiqué final?
Ils n'ont pas apprécié totalement le contenu de ce communiqué. Nous avons contacté à ce sujet Mme Françoise Van de Ven, secrétaire générale de la Fédération des industries du bois, qui représentait les exploitants forestiers. Suivez sa réaction.
Donc, je crois que nous avons parcouru évidemment beaucoup de sujets. Malheureusement, certains sujets auraient mérité d'avoir un débat plus profond et un peu plus serein. Je crois qu'on avait beaucoup d'acteurs qui étaient dans la salle et forcément, les avis n'étaient pas toujours les mêmes. Malgré ça, je considère que c'est une première réunion et que d'autres réunions vont suivre et qui permettront qu'on puisse lever tous les quiproquos qu'il puisse y avoir entre la population, l'administration et les exploitants. Par contre, nous avons trouvé l'accord sur certaines taxes qui doivent être payées en province. On nous a montré la possibilité d'une façon légale, toujours pour la Caisse du Trésor public, mais à Mbandaka. Et nous avons accepté de prendre cet engagement.
On a comme l'impression que les deux parties se sont séparées en queue de poisson, hein, Dominique?
Exactement. Les deux parties se sont séparées dos à dos. Chacune est restée campée dans sa position. Le protocole d'accord qui devait sanctionner cette rencontre n'a pas été signé. La représentante des exploitants forestiers a estimé que le document produit après les débats entre les deux parties contenait certains points sur lesquels ils ne s'étaient pas mis d'accord. Une autre rencontre a été programmée prochainement.
Prochainement, on aura un peu plus de détails avec notre invitée, Madame Françoise Van de Ven, secrétaire générale des industriels du bois en RDC. Dominique, avec vous, on s'arrête là et à la prochaine.
À la prochaine, JR.
Pour nous écouter dans le monde entier, c'est facile avec Internet. Vous tapez www.radiookapi.net. Radio Okapi, quand vous voulez, où vous voulez.
Madame Françoise Van de Ven, vous êtes secrétaire générale des industriels du bois en République démocratique du Congo et vous représentez réellement des exploitants forestiers. Nous sommes très flattés de vous recevoir dans ce studio. Vous êtes en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, disons, la dernière réunion s'est soldée en queue de poisson. Quelles sont les zones d'ombre qui restent encore et qui ne sont pas encore bien élucidées?
Bon, tout en comprenant le souci des provinces qui souhaitent avoir des budgets pour fonctionner, il nous était demandé de payer plutôt certaines taxes en province et les lois qui régissent notre pays ne nous permettent pas de le faire. Nous avons exprimé que nous avons bien la volonté de le faire, d'ailleurs nous comprenons, mais que tant que la loi sur la décentralisation et la loi financière ne sont pas modifiées, nous sommes forcés de payer les taxes là où l'État nous oblige de le faire.
Et qu'est-ce qui vous oppose concrètement?
Ben, concrètement, principalement, c'est évidemment les taxes, aussi les droits de sortie, les modalités pratiques qui ont été avancées par la province ne sont pas réalisables au niveau pratique de nos sociétés et de la façon dont nous exploitons et nous vendons nos bois. Et donc certains points ont été soulevés dans le communiqué où on avait discuté, donc entre autres la mise en place d'usines dans nos concessions en ayant les 6 mois, chose qui est tout à fait irréalisable de point de vue pratique puisque nous n'avons même pas une source d'énergie. Il y a encore d'autres petits points, mais nous avions durant la réunion exprimé cela, on a eu des débats là-dessus et nous avons été très surpris qu'à la fin de toute cette réunion, on nous a avancé le communiqué final dans la forme où il était initialement sans tenir compte de tout ce que nous avons débattu et c'était la raison pour laquelle il m'était impossible d'engager tout un secteur dans des choses qu'on n'avait pas discutées ou on ne s'était pas convenu.
Oui, Madame Françoise, on a toujours reproché aux industriels du bois en RDC, notamment ceux qui exploitent la forêt équatoriale, de ne pas respecter les contrats signés avec le gouvernement congolais quant à la réalisation de certains points sociaux aux besoins et aux bénéfices de la population locale. Est-ce que vous avez une attitude particulière par rapport à ça?
Mais je crois que la loi est claire. Le code forestier mentionne dans son article 89 les points spécifiques des cahiers de charges qui sont à réaliser par les exploitants forestiers. Cependant, le même article définit dans son dernier alinéa que le type cahier de charges doit être défini encore par arrêté par le ministre de l'Environnement. Jusqu'à ce jour, ce type de cahier de charges n'est pas sorti. Et chaque exploitant fait ce qu'il peut, en ne sachant pas qu'est-ce qu'il est obligé de faire ou de ne pas faire. Donc, c'est difficile d'encadrer un article pareil de la loi sans qu'il y ait les mesures d'application.
Ce n'est pas pour autant que le gouvernement doit croiser les bras pour laisser les exploitants évoluer dans ces désordres, raison pour laquelle il a levé le ton.
Mais c'est vous qui dites que c'est un désordre. Moi, je crois plutôt qu'on doit un peu voir les choses dans son contexte réel. Est-ce que chaque société, chaque opérateur économique qui travaille ici en RDC réalise des cahiers de charges? Et tout en étant, si vous n'avez pas les textes légaux qui vous disent ce qui doit être fait exactement, vous ne savez pas quoi faire. Donc chacun interprète ça de sa façon et il y a des conventions qui ont été signées avec les populations qui se réalisent. Donc je crois qu'il faut laisser quand même le dossier ouvert dans ce sens. Dès que nos contrats seront convertis et le cahier de charges type sera soumis aux exploitants, nous nous engageons. Entre-temps, il ne faut pas oublier que nous payons des taxes, et je vous cite 172 taxes différentes, et que l'État aussi a ses obligations d'utiliser ces taxes pour justement faire le nécessaire contre les écoles, centres de santé et infrastructures pour la population.
Oui. Alors, Madame Françoise, on nous apprend qu'on vient de saisir des cargaisons de bois au port de Mbandaka. La province de l'Équateur demande aux sociétés dont le bois est saisi de payer la taxe due à la province avant de laisser le bois descendre à Kinshasa. Qu'en est-il au juste?
Je pars justement aujourd'hui à Mbandaka. Durant les dernières journées, on a quand même pu harmoniser un communiqué ou un protocole d'accord même avec l'exécutif provincial et qui devra être signé cet après-midi.
Et vous avez tendance c'est selon nos sources, les industriels ont souvent tendance à verser des pots de vin aux autorités plutôt qu'à respecter les cahiers des charges des communautés locales. C'est vrai?
Non, monsieur, je crois que vous mettez la charrue devant les bœufs. Je crois que c'est tout ce qui doit être vu, et ça, d'expérience personnelle, j'ai déjà vécu ça. Nous avons signé des conventions avec les notables et les chefs de groupement, et assistés par le chef de secteur et souvent aussi l'administrateur des territoires. Et quand nous livrons le matériel, c'est-à-dire des tôles, le ciment, du bois pour améliorer les conditions de vie de la population, et que nous ne voyons même plus sur terrain qu'est-ce qui a été fait avec cet argent finalement qui revient de la vente de certains biens. Oui. Nous remettons des écoles, nous construisons. Quand vous allez après 3 mois, les bancs sont partis, les portes sont parties, les fenêtres sont parties. Donc la population ne respecte pas non plus ce qu'on leur remet. Et c'est là où nous avons demandé au niveau de l'exécutif de veiller ensemble avec tous les parties prenantes à ce que les biens que nous remettons et les bâtiments que nous construisons pour eux soient au moins conservés dans l'état où l'on les a remis.
Oui.
Je crois que ce que vous allez entendre cet après-midi concernant donc le protocole qu'on va signer, vous allez trouver que la chose est très harmonisée et en tant que secteur forestier, nous avons accepter d'aider la province en leur fournissant des bancs scolaires et autres.
Madame Françoise Van Den Ven, nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes le secrétaire général des industriels du bois en RDC. C'est depuis quand que vous avez investi dans le bois ici en RDC?
Moi, personnellement, je n'ai pas investi. Comme vous l'avez bien dit, je suis secrétaire général du syndicat. J'ai eu jusqu'il y a un an et demi à travailler dans une société forestière et c'est de là où je tiens effectivement toute l'expérience et tous les problèmes et aussi les bonnes choses parce qu'il n'y a pas seulement des problèmes quand même avec la population. C'est de là que je tiens mon expérience personnelle.
Oui, donc ça veut dire que vous êtes tout le temps en contact avec les exploitants?
Exactement.
Mais bon nombre de gens qui vous suivent à travers l'Équateur, hein, parce que c'est de là où justement qui se pose un problème. Certains nous ont dit que par rapport aux bénéfices que bon nombre d'exploitants réalisent, on leur demande de petites choses telles que la construction des écoles, des centres de santé, ainsi que l'entretien des routes que leurs engins utilisent. Mais en tout cas, la majorité n'exécute pas cela. Vous, en tant que syndicaliste, secrétaire général en plus, comment voyez-vous les choses? Quelle est justement votre contribution pour cela?
Mais je crois que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, certaines marchandises que nous construisons, que nous remettons à la population, on trouve qu'ils sont vendus par après, et c'est évident que la population, à ce moment-là, a du mal à voir quels sont les biens que nous avons remis. Donc, c'est de là aussi que vient tout un problème au niveau des chefs de groupement et autres qui doivent quand même se sentir responsables pour remettre à la population les biens qu'on leur a remis.
Donc, vous voulez dire que ce n'est pas aux exploitants de construire, mais c'est plutôt à l'État congolais de le faire?
Non, mais l'État a de toute façon une responsabilité. Construire des écoles, ça appartient à l'État. Malheureusement, comme l'État est défaillant dans certaines provinces ou dans l'intérieur du pays, on demande aux opérateurs économiques d'intervenir.
Oui, mais
nous
ne sommes
pas du tout contre ça. Mm. Nous voulons seulement qu'on nous dise qu'est-ce qu'il faut faire exactement et combien d'écoles, combien de centres de santé.
Donc vous voulez dire que jusque-là...
rentrer dans son budget.
Oui, vous voulez dire que jusque-là, l'État n'a pas eu à donner, comme qui dirait, des directives à ses exploitants.
Exactement.
On ne leur a jamais dit de construire des hôpitaux, de construire des routes.
Mais jusque-là, non, madame. Ça se trouve dans l'article 89 du Code forestier. Et même cet article, si vous le lisez, à la fin, dans son dernier alinéa, est écrit que le type de cahier de charge, donc c'est-à-dire le type, le modèle que nous devons utiliser, nous tous, l'exploitant, sera défini par un arrêté par le ministre de l'Environnement.
Oui.
À ce jour, cet arrêté n'est pas là.
Alors,
et
justement,
c'est dans ce sens que les sociétés font.
On va essayer de clarifier les choses davantage et trouver des solutions. Madame Françoise Van de Ven, puisque nous avons Norbert Ndoto Mokele en ligne. Hein,
oui. Voilà, parce que M. Norbert est en ligne, c'est le
ministre provincial de l'Environnement.
De l'Environnement. Bonjour, Monsieur Norbert.
Bonjour.
Oui,
bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, la dernière réunion s'est soldée en queue de poisson. Comment comptez-vous revenir encore autour d'une même table avec les exploitants forestiers pour trouver une solution?
Au fait, les concertations se sont très bien déroulées. Ce n'est qu'à la fin, pour la signature du communiqué final, c'est ce qui a posé problème, parce que là, il y avait certains points auxquels les exploitants n'ont pas été d'accord, mais qui s'est retrouvé dans le communiqué final. C'est comme ça qu'ils ont dit non. Au lieu de signer dans la précipitation, ils ont préféré ramener le document à Kinshasa, essayer de l'analyser minutieusement et alors corriger s'il y a eu des erreurs. Enfin, ils ont ramené ça pour que nous puissions, nous aussi à notre niveau, analyser, voir si les obligations que nous avons demandées aux exploitants se retrouvent dans le document final, alors que nous allons signer les deux parties, c'est-à-dire les exploitants forestiers, représentés par Madame Françoise, et l'exécutif provincial, représenté par le ministre de l'Environnement provincial, nous allons signer le document.
Oui, ben, qu'en est-il de l'article 88 du Code forestier qui a soulevé le tollé?
L'article 89 du Code forestier.
Oui.
L'article 89 du Code forestier dit exactement ceci. Quand l'exploitant qui a sa concession veut commencer à exploiter, en son article 89, il est recommandé à l'exploitant que, comme il va se trouver en face de la communauté locale, l'exploitant forestier a l'obligation d'abord d'aménager ou de construire les routes, d'aménager ou de construire les centres hospitaliers et les écoles, et faciliter la communauté locale en matière de transport. C'est-à-dire que là où ils sont en train d'exploiter, s'il y a un ayant droit qui veut se rendre, il a soit un sac de procès de manioc ou quoi que ce soit, l'exploitant a l'obligation de les transporter, de les ramener là où IG se rendre.
Donc l'exploitant se substitue à l'État, en quelque sorte.
Oui.
Donc l'exploitant se substitue à l'État maintenant.
L'exploitant forestier a cette obligation-là. C'est l'article 89 du Code des forestiers qui exige cela. La facilité en matière de transport aux ayants droit. Ce sont ces trois points-là.
Oui, mais aujourd'hui, il se pose un problème, parce que nous avons suivi Mme Françoise, qui nous a laissé entendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas une signature, disons, définitive quant à cet article 89. C'est comme si ce n'est pas clairement défini.
Non, ça veut dire que le code forestier est en vigueur, mais ce code doit être complété par... le code forestier doit être complété par les textes, certains textes qu'on appelle les mesures d'application.
Oui, ben alors, donc
jusque là, nous sommes en train de les
exploitants.
Mais pour autant que
oui, les exploitants ont tout à fait raison.
Que les exploitants sont. Vous êtes en train de me suivre?
Oui, je vous suis. Allez-y.
Pour autant qu'ils sont en train d'exploiter et que le code est en vigueur. Donc, tout ce qui est repris dans le code forestier doit être d'application.
Oui, mais
voilà, on a bien entendu que les mesures d'application soient mises.
Mais puisque le cahier de charge, M. Norbert Ndoto, nous rappelons que vous êtes ministre provincial de l'Environnement à l'Équateur, le cahier de charge n'a pas été, clairement défini. Qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement? Ils doivent construire des hôpitaux, mais où?
Non. C'est-à-dire que quand les exploitants savent partout où ils vont, quand ils sont en train d'exploiter, ils signent le protocole d'accord avec la population.
Oui, mais il faudrait qu'il y ait un cahier de charge.
Je reviens mission au district de la Mongala pour voir le protocole d'accord que les exploitants ont signé avec la communauté locale.
Oui, mais
je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, j'ai suivi bien Mme Françoise qui est en train de dire que non, et la faute incombe aussi à la communauté locale, pour autant qu'ils ne sont pas en train d'entretenir ce qui est construit par les exploitants. Mais c'est quel genre de matériel qui sont en train de construire ces écoles et ces hôpitaux? Pose madame la question.
Oui, ben alors, madame...
Quel genre de matériel?
Elle est toujours en ligne.
C'est quel genre de matériel?
Madame Françoise Vandenberg, vous avez un point de vue ajouté à ce sujet?
Oui, je peux certainement ajouter. Donc, il y a des exploitants qui ont fait des écoles et parfois même pas nombre d'écoles dans leur concession. Et nous constatons, comme je vous ai dit tout à l'heure, le bâtiment évidemment reste, mais ce que nous voyons souvent, c'est que les portes, les fenêtres et les bancs scolaires partent.
Oui, ben alors maintenant que la province veut tirer profit de son bois que vos sociétés coupent, comment allez-vous collaborer? Parce qu'il faut maintenant collaborer.
Mais justement, c'est ce que j'ai dit, je suis en route pour l'aéroport de Papataka. Vous signez donc le communiqué final au fond, c'est maintenant un protocole d'accord entre l'exécutif et les exploitants. Et en attendant que la province puisse se retrouver dans la rétrocession, nous avons accepté de les aider sous forme d'une taxe d'évacuation. Et qui est donc temporaire en attendant les 40% de la rétrocession, et aussi un programme d'aide pour les bancs scolaires, non seulement en province dans nos concessions, mais également dans la ville de Bandaka.
Donc l'affaire est réglée. Mais là, il y a encore un autre problème. Une nouvelle société dénommée Groupe Ledia accepte de satisfaire à toutes les exigences de la province. Pourquoi les autres exploitants forestiers ne veulent pas faire diligence?
Mais je crois que j'ai dit au début de l'interview, le pays est régi par des lois. Il y a la loi financière et la loi de la décentralisation qui n'est même pas encore sortie. Donc, autant que ça, nous devons nous référer à les dispositions légales qui sont en vigueur. Donc, c'est-à-dire, la loi ne nous autorise pas en ce moment de payer en province. D'ailleurs, la DGRAT a écrit une lettre qui est bel et bien claire, c'est-à-dire, si nous payons ailleurs qu'à Kinshasa, sur le compte qui est mentionné sur le note de perception, l'État ne considère pas qu'on a liquidé nos taxes.
Voilà.
Donc, c'est un problème où on met les opérateurs économiques au milieu. Et moi, j'aimerais bien qu'au niveau du gouvernement central, on puisse se rendre compte que ces mêmes opérateurs qui sont à l'intérieur du pays subissent des pressions terribles de la part des provinces et aussi de la population.
Donc,
il faudra qu'ils puissent sortir de cette situation parce que nous sommes censés d'œuvrer et de faire venir des recettes dans ce pays. Et pour l'instant, nous ne faisons que subir des préjudices.
Voilà, Madame Françoise Van de Ven, on va vous laisser parce que vous êtes à l'aéroport en direction de Mbandaka pour rencontrer le ministre provincial de l'Environnement, afin de pouvoir signer finalement le rapport final de cette réunion. Hein.
Exactement, donc nous allons signer avec l'exécutif provincial. Donc, parce que cet engagement doit tenir pour la province et donc pour les membres de notre syndicat. Vous avez mentionné tout à l'heure la société Lédia. Je crois quand même que je dois vous préciser que la société Lédia ne fait pas partie de nos membres.
Voilà, Madame Françoise Van de Ven, nous rappelons que vous êtes secrétaire générale des industriels du bois en République démocratique du Congo. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Et on se retourne du côté de Norbert Ndoto, Mokwele, ministre provincial de l'Environnement. Donc, vous êtes à l'attente de Madame Françoise qui, finalement, accepte de venir signer ses rapports finaux.
Oui, je le dis ici que si les documents qu'ils ont harmonisés racontent les souhaits de l'exécutif provincial qui dirige son excellence monsieur le gouverneur, c'est en ce moment-là que nous avons signé. Donc nous avons la ferme détermination pour que la richesse des bois produits à l'équateur, que la population se retrouve dans cette exploitation, et nous allons, nous ici, amorcer la phase de développement de notre province à travers ces ressources. Si aujourd'hui, ces ressources qui sont exploités, le bois qui sont exploités ici chez nous, n'arrive pas à répondre aux vœux voulus par son excellence, monsieur le gouverneur, pour le développement de sa province et pour le bien-être de la population de l'Équateur. Comment voulez-vous que nous laissions les choses aller comme ça? Est-ce qu'il faudrait-il continuer avec ces gens-là pour autant que ça ne profite pas à la province? Non, ça, c'est pourquoi son excellence a pris la ferme décision quand il a trouvé que non, ils ont refusé de signer le communiqué final.
Oui, monsieur Norbert.
Oui, je vous en prie.
Monsieur Norbert Ndoto, Mokele, on va voir comment les choses vont évoluer de ce côté-là, parce que madame arrive en Mbandaka aujourd'hui. Demain, après-demain, nous allons faire le suivi pour savoir si réellement ces contrats étaient signés pour les bénéfices de la population. Une fois encore, merci d'avoir été de notre aide à la
prochaine. Non, un instant. Avant de clôturer, je voudrais dire exactement ceci. Allô?
Allô, oui,
allez-y rapidement, hein, oui. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
Oui, je voudrais dire ceci. Donc, son excellence, monsieur le gouverneur de la province, n'a pas refusé que les exploitants viennent exploiter ici chez nous. Mais, quand ils viennent, ils doivent en tout cas répondre aux désirs de la population.
Tout à fait.
C'est pourquoi il a pris l'option de dire que non, voilà, même dans ses communiqués finaux, il faut qu'ils respectent, les exploitants respectent scrupuleusement l'article 89 du Code forestier.
Ouais, oui, mais raison pour laquelle nous avons dit, on va faire le suivi, c'est-à-dire madame arrive en Mbandaka aujourd'hui, et vous allez vous retrouver, donc l'exécutif avec les exploitants, pour dégager,
pour en parler,
et nous allons faire le suivi après, pour savoir si réellement la population tire bénéfice.
Oui, il y a une dernière réaction qui vient d'arriver, JR, peut-être c'est en rapport avec le débat qu'on vient d'avoir, on va rapidement lire cette question.
Oui, c'est juste un écologiste qui demandait au ministre provincial ce qu'il pense des exploitants. Que pensent les exploitants et le gouvernement sur le réchauffement de la planète? Y a-t-il un mécanisme en place pour pallier à cela?
Le mécanisme sur lequel nous avons dit le bois, c'est notre ressource, c'est notre richesse. Si aujourd'hui nous trouvons des partenaires sûrs qui veulent à ce qu'on arrête l'exploitation forestière. On arrête l'exploitation forestière et ils nous amènent les capitaux pour essayer de mettre fin à l'exploitation, c'est-à-dire en compensation, bien entendu, nous allons accepter. Mais vous allez interdire, c'est la seule ressource qui, aujourd'hui, si on arrive à bien canaliser ça, ça peut apporter un développement dans la province. Vous dites que non, on arrête.
Affaire à suivre, Norbert Ndoto.
Oui, donc, pour dire que nous sommes d'accord pour protéger nos écosystèmes, la biodiversité, et en contrepartie, qu'on ramène l'argent pour compenser au manque à gagner qui va faire en sorte qu'on ne puisse pas exploiter.
Le message est passé. Norbert Ndoto Mokwele, nous rappelons que vous êtes ministre provincial de l'Environnement. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Ok, merci beaucoup.